David Hume, Ma vie, écrit en 1776, traduction française de Jean-Baptiste Antoine Suard, 1777. Avertissement de l'éditeur anglais. Monsieur Hume écrivit, quelques mois avant sa mort, le précis de sa vie qu'on va lire. Et dans un codicille joint à son testament, il demande que ce morceau soit imprimé à la tête de la première édition qu'on fera de ses œuvres. Comme cette édition ne peut être publiée de longtemps, l'éditeur, voulant favoriser les acquéreurs des précédentes éditions et satisfaire en même temps la curiosité du public, a jugé convenable de publier à part ce précis, sans en changer même le titre, qui est écrit de la main de M. Hume sur l'enveloppe du manuscrit. Ma vie. Il est difficile de parler de soi longtemps sans vanité. Je serai donc court. On pourra cependant regarder comme un trait de vanité la fantaisie que j'ai d'écrire ma vie. Mais ce récit ne contiendra guère que l'histoire de mes écrits. Et en effet, presque toute ma vie s'est consumée en occupations et en travaux littéraires. D'ailleurs, le genre de succès qu'ont eu d'abord la plupart de mes ouvrages n'est pas fait pour être un sujet de vanité. Je suis né à Édimbourg. Le 26 avril 1711, vieux style, d'une famille distinguée, tant du côté de mon père que de celui de ma mère. La famille de mon père est une branche des comtes de Home, ou Hume, et mes ancêtres ont été, pendant plusieurs générations, propriétaires du bien que mon frère possède. Ma mère était fille du chevalier David Falconer, président du collège de justice, et son frère a eu par succession le titre de Lord Arkelton. Ma famille n'était cependant pas riche, et n'étant moi-même qu'un cadet, mon patrimoine, suivant la coutume de mon pays, était par conséquent très peu de choses. Mon père, qui passait pour un homme d'esprit, mourut lorsque j'étais en bas âge, et me laissant avec un frère aîné et une sœur sous la conduite de notre mère, femme d'un rare mérite qui, quoique jeune et belle, se dévoua tout entière à l'éducation de ses enfants. Je suivis avec succès le cours ordinaire des études, et je me sentis de très bonne heure entraîné par un goût pour la littérature qui a été la passion dominante de ma vie et la grande source de mes plaisirs. L'amour pour l'étude, la sobriété et l'intelligence que je montrais firent penser à la famille que le barreau était un état qui pouvait me convenir. Mais je sentais une aversion insurmontable pour tout autre objet que pour les recherches de la philosophie et de la littérature. Et tandis que mes parents me croyaient occupé à méditer sur Voète et sur Vinus, c'étaient les ouvrages de Cicéron et de Virgile que je dévorais en secret. Cependant, ma fortune étant trop modique pour se concilier avec ce genre de vie, et ma santé ayant été un peu altérée par l'ardeur du travail, je fus tenté, ou plutôt forcé, de faire une légère épreuve pour entrer dans une carrière plus active. J'allai donc à Bristol en 1734, avec quelques recommandations pour des négociants considérables. Mais au bout de quelques mois, je trouvai que le commerce ne me convenait point du tout. Je passai en France avec le dessein de continuer mes études dans une retraite de campagne. Et c'est là que je commençai le plan de ma vie, que j'ai depuis, heureusement et constamment suivi. Je pris le parti de suppléer aux défauts de fortune par l'économie la plus exacte, de conserver la plus entière indépendance et de regarder avec dédain tout ce qui ne me tendait pas à perfectionner mes talents en littérature. Pendant ma retraite en France, d'abord à Reims, mais particulièrement à La Flèche en Anjou, je composai mon traité de la nature humaine. Après avoir passé très agréablement 3 années dans ce pays, j'allai à Londres en 1737. À la fin de 1738, j'y publiai mon traité, et aussitôt après, je vins joindre ma mère et mon frère en Écosse. Mon frère vivait à sa maison de campagne, où il s'occupait très sagement et très avantageusement à augmenter sa fortune. Jamais il n'y eut d'entreprise littéraire plus malheureuse que mon traité de la nature humaine. Il mourut en naissant, et il n'obtint pas même la distinction d'exciter quelques murmures parmi les fanatiques. Comme j'étais naturellement porté à la gantée et à l'espérance, je me relevai bientôt de ce premier coup, et je repris mes études à la campagne avec une nouvelle ardeur. En 1742, je fis imprimer à Édimbourg la première partie de mes essais. Cet ouvrage fut accueilli favorablement et me fit entièrement oublier mon premier revers. Pendant le temps que je passais à la campagne avec ma mère et mon frère, je me remis à l'étude de la langue grecque que j'avais trop longtemps négligée dans ma première jeunesse. En 1745, je reçus une lettre du marquis d'Annandale qui m'invitait à aller en Angleterre pour vivre avec lui. Les parents et les amis de ce jeune seigneur désiraient de le confier à mes soins et à ma direction, dont l'état de son âme et celui de sa santé avaient besoin. Je passai un an avec lui, et dans cet intervalle, mes appointements contribuèrent à accroître ma petite fortune. Je reçus une autre invitation du général Sinclair, qui me proposait de l'accompagner, en qualité de secrétaire, à une expédition qui était d'abord destinée contre le Canada et qui se termina par une incursion sur la côte de France. L'année suivante, c'est-à-dire en 1747, ce même général me proposa de l'accompagner, avec le même titre dans son ambassade militaire, au cours de Vienne et de Turin. Je pris alors un uniforme d'officier, et je fus présenté à ses cours comme aide-de-camp du général, ainsi que le chevalier Henry Erskine et le capitaine Grant, aujourd'hui officier général. Ces deux années ont été presque les seules interruptions qu'il y ait eu dans mes études pendant le cours de ma vie. Je les passai agréablement et en bonne compagnie, et mes appointements, joints à mon économie, me rendirent maître d'une fortune que j'appelais « indépendante », quoique mes amis eussent envie de rire quand j'en parlais sur ce ton-là. Enfin, je possédais alors près de 1000 livres sterling. J'avais toujours cru que le mauvais succès de mon traité de la nature humaine tenait plus à la forme qu'au fond de l'ouvrage, et que j'avais fait d'une imprudence très ordinaire en me faisant imprimer trop tôt. Je refondis donc la première partie de ce traité dans mes « Recherches sur l'entendement humain », qui furent publiées pendant que j'étais à Turin. Cette seconde entreprise ne fut d'abord guère plus heureuse que la première. À mon retour d'Italie, j'eus la mortification de trouver toute l'Angleterre en rumeur à l'occasion des recherches libres du docteur Middleton, tandis que mes recherches étaient absolument négligées ou ignorées. On fit à Londres une nouvelle édition de mes essais de morale et de politique qui n'eurent pas un meilleur sort. Telle est la force du tempérament et du caractère, que ces revers ne firent que peu ou point d'impression sur moi. Je vins en Écosse en 1749. Ma mère était morte. Je vécus 2 ans avec mon frère à la maison de campagne. J'y composai la seconde partie de mes essais, que j'appelais « Discours politique », et mes recherches sur les principes de la morale, qui sont une autre partie refondue de mon traité de la nature humaine. Cependant, mon libraire, A. Millard, m'écrivit que mes ouvrages, à l'exception de ce malheureux traité, commençaient à devenir le sujet des conversations, que le débit en augmentait tous les jours, et qu'on en demandait de nouvelles éditions. On imprimait dans une année 2 ou 3 réponses à ses écrits, faites par de révérends et de très révérends auteurs. Et je jugeais, par les invectives du docteur Warburton, que mes livres commençaient à être estimés en bonne compagnie. J'avais cependant pris la résolution de ne jamais répondre à personne. J'y ai été invariablement fidèle, et n'étant pas d'un caractère très irascible, je me suis aisément dispensé d'entrer dans aucune querelle littéraire. Ces apparences d'un accroissement de réputation m'encouragèrent d'autant plus que j'ai toujours été disposé à saisir le côté favorable des choses que le mauvais côté. Et c'est un tour d'esprit plus utile au bonheur que d'être né avec 10 000 livres sterling de rente. Et c'est un tour d'esprit plus utile au bonheur que d'être né avec 10 000 livres sterling de rente. En 1751, je quittai la campagne pour la ville, qui est la véritable résidence d'un homme de lettres. En 1752, je publiai à Édimbourg, où je vivais alors, mes discours politiques, le seul de mes ouvrages qui eut du succès en paraissant. Il fut très bien accueilli, et en Angleterre, et en Écosse. On publia à Londres dans la même année mes recherches sur les principes de la morale, celui de tous mes écrits, historiques, philosophiques ou littéraires, qui, s'il m'est permis d'avoir une opinion sur ce sujet, me paraît sans comparaison le meilleur. On n'y fit aucune attention lorsqu'il parut. En 1752, le corps des avocats d'Édimbourg me choisit pour son bibliothécaire, emploi dont je ne retirais que peu ou pas d'émoluments, mais qui me donnait la disposition d'une grande bibliothèque. Je conçus alors le projet d'écrire l'histoire d'Angleterre, mais je fus effrayé de l'idée de suivre une narration pendant une période de 1700 ans. Je commençais à l'avènement de la maison de Stuart, époque où il me semblait que l'esprit de faction avait commencé particulièrement à répandre les préventions et les erreurs. Je croyais être le seul historien qui eût dédaigné à la fois le pouvoir, le crédit, la fortune et les clameurs des préjugés populaires. Et comme le sujet était à la portée de tout le monde, je comptais sur l'approbation universelle. Mais je fus inhumainement frustré dans ces espérances. Il s'éleva contre moi un cri général de censure, d'improbation et même de détestation. Anglais, Écossais et Irlandais, Whigs et Tories, Anglicans et sectaires, esprits forts et dévots, patriotes et courtisans, tous se réunirent dans leur fureur contre un homme qui avait eu l'audace de répandre une larme généreuse sur le sort de Charles Ier et sur celui du comte de Strafford, qui, après que la première effervescence de leur rage fut calmée, ce qu'il eut de plus mortifiant encore pour moi, c'est que le livre parut tomber dans l'oubli. Monsieur Millard me dit que, dans un an, il n'en avait vendu que 45 exemplaires. Il était en effet difficile de citer dans les trois royaumes un seul homme considérable par le rang ou par les connaissances qui trouvera l'ouvrage tolérable. J'en excepte cependant le docteur Herring, primat d'Angleterre, et le docteur Stone, primat d'Irlande. Deux exceptions qui doivent paraître un peu extraordinaires. Ces prélats distingués m'exhortèrent chacun de leur côté à ne pas perdre courage. J'avoue cependant que j'étais découragé, et si la guerre ne s'était déclarée dans le même temps entre la France et l'Angleterre, je me serais certainement retiré dans quelques villes des provinces de France en changeant de nom et avec la ferme résolution de ne plus retourner dans ma patrie. Mais ce projet n'étant pas praticable, et le second volume de mon histoire étant déjà fort avancé, je repris courage et je me déterminai à continuer. Dans cet intervalle, je publiai à Londres mon Histoire naturelle de la religion, avec quelques autres morceaux. Cette nouvelle production resta d'abord assez obscure. Seul le docteur Heard y répondit par un pamphlet écrit avec toute l'arrogance, l'amertume et la grossièreté qui distinguent l'école warburtonienne. Ce pamphlet me consola un peu de l'accueil assez froid d'ailleurs qu'on fit à mon ouvrage. En 1756, 2 ans après la chute du premier volume de mon histoire, je publiai le second volume qui embrassait la période écoulée depuis la mort de Charles Ier jusqu'à la Révolution. Il arriva que les Whigs furent moins choqués de cette seconde partie, laquelle fut mieux reçue et non seulement se soutint, mais aida même à relever un peu la première. Quoique l'expérience m'eût appris que le parti des Whigs était en possession de donner toutes les places, et en politique, et en littérature, j'étais si peu disposé à céder à leurs déraisonnables clameurs que dans plus de 100 passages que l'étude, la lecture ou la réflexion m'engagèrent à changer dans les règnes des deux premiers Stuarts, tous ces changements furent sans exception en faveur du parti Tory. Il est ridicule de considérer la Constitution d'Angleterre, avant cette période, comme un système régulier de liberté. En 1759, je publiai mon histoire de la maison de Tudor qui excita presque autant de clameurs que celle des deux premiers Stuarts. Le règne d'Élisabeth fut le morceau qui révolta davantage. Mais j'étais alors devenu insensible aux impressions de la sottise publique, et je restai paisible et content dans ma retraite d'Édimbourg pour y achever, en 2 autres volumes, la partie antérieure de l'histoire d'Angleterre que je donnais au public en 1761, avec un succès passable, mais seulement passable. Malgré ces vicissitudes auxquels mes écrits avaient été exposés, ils ont toujours gagné dans l'opinion, au point que l'argent qui m'en a été donné par le libraire a été fort au-delà de ce qu'on avait vu en Angleterre. J'étais donc devenu, non seulement indépendant, mais même opulent. Je me retirais dans mon pays natal dans l'intention de n'en plus sortir, emportant avec moi la satisfaction de n'avoir jamais rien demandé, ni même fait aucune avance d'amitié à un seul homme en place. J'avais alors plus de 50 ans, et je comptais passer le reste de ma vie dans ce repos philosophique lorsque je reçus en 1763 une invitation du comte d'Hertford, avec qui je n'avais jamais eu aucune liaison, et qui me proposait de l'accompagner à son ambassade en France pour y remplir les fonctions de secrétaire d'ambassade, avec l'espérance prochaine d'en avoir le titre. Je refusai d'abord cette offre, quelque avantageuse qu'elle fût, parce que j'avais quelque répugnance à former des liaisons avec les grands, et parce que je craignais que la politesse et la gaieté des sociétés de Paris ne convinssent plus à un homme de mon âge et de mon caractère. Mais Milord Hertford, ayant renouvelé ses instances, je m'y rendis. Et j'ai eu toutes sortes de raisons, soit d'agrément, soit d'intérêt, pour me féliciter de la liaison que j'ai contractée avec ce seigneur, et depuis, avec son frère, le général Conway. Ceux qui n'ont jamais connu les étranges effets de la mode pourront difficilement concevoir l'accueil que je reçus à Paris des hommes et des femmes de tous les rangs et de tous les états. plus je me dérobais à leur excessive politesse, plus j'en étais accablé. On trouve cependant, en vivant à Paris, une satisfaction bien réelle dans la société d'un grand nombre de personnes spirituelles, instruites et polies, dont toute cette ville abonde plus qu'aucun lieu de l'univers. J'ai eu une fois l'idée de m'y établir pour le reste de ma vie. Je fus nommé secrétaire d'ambassade dans l'été de 1765. Le Lord Hertford ayant été fait vice-roi d'Irlande, il me laissa à Paris en qualité de chargé d'affaires jusqu'à l'arrivée du duc de Richmond vers la fin de l'année. Au commencement de 1766, je quittai Paris. Et l'été suivant, je vins à Édimbourg, résolu comme autrefois de m'ensevelir dans une retraite philosophique. J'y revenais, non plus riche que j'en étais parti, mais avec plus d'argent et un plus gros revenu que je devais à l'amitié du Lord Hertford. J'eus le désir d'essayer ce que pouvait produire sur moi le superflu, après avoir éprouvé l'effet du nécessaire. Mais en 1767, M. Conway m'offrit la place de son secrétaire d'État. Le caractère de ce ministre et mes relations avec Milord Hertford ne me permirent pas de refuser cette place. Je revins à Édimbourg en 1769, très opulent, car je possédais 1000 livres sterling de rente, en bonne santé, et quoique un peu appesanti par l'âge, espérant de jouir longtemps de mon aisance et de voir augmenter ma réputation. Au printemps de 1775, je fus attaqué d'un mal d'entrailles qui d'abord ne me donna aucune inquiétude, mais qui depuis est devenu à ce que je crois mortel et incurable. Je compte maintenant sur une prochaine dissolution. Cette maladie a été accompagnée de très peu de douleurs, et ce qui est le plus étrange, je n'ai jamais senti, malgré le dépérissement de toute ma personne, un seul instant d'abattement de l'âme. En sorte que s'il me fallait dire quel est le temps de ma vie où j'aimerais le mieux revenir, je serais tenté d'indiquer cette dernière période. Je n'ai jamais eu en effet plus d'ardeur pour l'étude, ni plus de gaieté en société. Je considère d'ailleurs qu'un homme de 65 ans ne fait en mourant que se dérober à quelques années d'infirmité, et quoique plusieurs circonstances puissent me faire espérer de voir ma réputation littéraire acquérir enfin un peu plus d'éclat, je sais que je n'aurai que peu d'années à en jouir. Il est difficile d'être plus détaché de la vie que je le suis à présent. Je terminerai ceci en historien exact, par la peinture de mon caractère. Je suis, ou plutôt j'étais, car c'est le ton que je dois prendre en parlant de moi, et qui m'enhardit même à dire ce que je pense. J'étais, dis-je, un homme d'un caractère doux, maître de moi-même, d'une humeur ouverte, gaie et sociale, capable d'amitié, mais très peu susceptible de haine et très modéré dans toutes mes passions. Le désir même de la renommée littéraire qui a été ma passion dominante n'a jamais aigri mon caractère, malgré les fréquents revers que j'ai éprouvés. Ma conversation n'était désagréable ni aux jeunes gens, ni aux oisifs, ni aux hommes studieux et instruits. Comme je trouvais un plaisir particulier dans la société des femmes honnêtes, je n'ai pas eu lieu d'être mécontent de la manière dont j'en ai été traité. En un mot, quoiqu'il n'y ait guère eu d'homme distingué en quel genre que ce soit qui n'ait eu à se plaindre de la calomnie, je n'ai jamais senti l'atteinte de sa dent envenimée, et quoique je me sois exposé assez légèrement à la rage des factions politiques et religieuses, elles ont paru se dépouiller en ma faveur de leur férocité ordinaire. Mes amis n'ont jamais eu besoin de justifier aucune circonstance de ma conduite ni de mon caractère. Ce n'est pas que les fanatiques n'eussent été disposés, comme on peut bien le croire, fabriquer et à répandre des fables à mon désavantage, mais ils n'ont jamais pu en inventer une seule qui eût quelque apparence de probabilité. Je ne puis pas dire qu'il n'y ait point de vanité à faire ainsi ma propre oraison funèbre, mais j'espère que du moins on ne la trouvera pas hors de propos. C'est un point de fait qui va être bientôt éclairci et constaté. Ce 18 avril 1776.